comme tous ceux qui dans le monde entier nous écoutent sur Internet, vous aussi, écoutez Music Box sur le net. Notre mot de passe, musicboxtv.com.
Dites-le à vos amis.
Musicboxtv.com.
Joël Chevet, le livre « L'Élysée au féminin » publié aux éditions du Rocher. Donc nous allons plonger chez ces dames qui, allez, aujourd'hui, elles ont un statut, pas de statut finalement avec Brigitte Macron.
Alors, je dirais que le terme de statut n'est pas celui qui convient en fait. On ne peut pas donner un statut à la première dame dans la mesure où la Constitution, le terme de statut c'est juridique, la Constitution ne prévoit pas un rôle juridique ou un statut, pour le coup, à l'épouse du chef de l'État. Donc, parler de statut me paraît difficile aujourd'hui. Et c'est vrai que le président actuel a résolu le problème en parlant de charte. C'est-à-dire sorte de contrat négocié entre les Français et l'Élysée pour la durée du mandat et qui va donc reconnaître, par contre, la place de l'épouse du chef de l'État à ses côtés, avec en effet des fonctions diplomatiques, de représentation, d'accueil et éventuellement d'engagement dans des œuvres, disons, humanitaires.
Alors dans ce livre, vous retracez le portrait de ces... Alors, première dame aussi, on emploie tellement de mots génériques.
Oui.
Pendant plus de deux siècles, donc on remonte à Joséphine Bonaparte, Listière, Henriette Poincaré, Yvonne de Gaulle. Finalement, ces femmes ont toujours eu une part importante dans peut-être pas dans le fonctionnement de l'Élysée, mais du moins auprès de leur époux.
Alors... Est-ce qu'elles ont eu une place importante sur le plan politique? Sûrement pas, parce que ils ne l'auraient pas reconnu, si vous voulez. C'est un peu une tradition en France, et ça depuis la monarchie. Hein. La loi salique exclut les femmes, évidemment, de la politique. Et ça, on porte encore ces archaïsmes quand on cherche à définir la fonction des épouses de président. Reste qu'elles jouent un rôle important à leur côté, mais qui n'est pas contesté. Tant qu'elles, je dirais que jusqu'en 1938, où la femme est soumise à son mari, lui obéit et le suit partout, personne ne se pose la question sur la présence d'une femme à côté du chef de l'État. Personne. Je dirais que les interrogations sont beaucoup plus récentes et liées en fait à l'émancipation des femmes. C'est une piste que je suis tout le long de cet ouvrage, donc depuis la Première République jusqu'à aujourd'hui, et pour montrer que en fait leur rôle n'a pas foncièrement changé. On leur demande la même chose qu'on demandait aux présidentes, puisqu'on les appelait comme ça, de la Troisième République, c'est-à-dire les fonctions que je vous ai déjà énumérées et qui sont très traditionnelles, celles qu'on reconnaît aux femmes dans notre tradition et monarchique et républicaine.
Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, moi je me souviens du général de Gaulle qui questionnait Yvonne sur l'humeur des Français par exemple, est-ce que ce n'est pas un moment justement un peu important pour ces hommes déconnectés de la réalité d'avoir ces femmes à côté qui étaient peut-être un peu plus terre à terre?
Oui, c'est tout à fait vrai qu'elles ont toujours été considérées comme faisant une intercession entre le monde de la politique qui serait détachées des réalités politiques, et puis ces femmes qui connaissent le prix de la baguette du pain, c'était le cas d'Yvonne de Gaulle, et je pense que on pourrait parler d'elle justement un peu plus précisément. Elle a joué un rôle, par exemple, là où on ne l'attend pas du tout, pour convaincre le général d'être favorable à la loi Neuwirth, qui était la loi sur la contraception. Et on n'attend pas Yvonne de Gaulle dans ce rôle-là. Et pourtant, elle a justement une appréhension des problèmes concrets que vivent les femmes avec les avortements et les conséquences que l'on connaît. Et elle va réussir à le convaincre, lui qui disait « Bon, les Français veulent bézouiller dans tous les coins. C'est pour ça qu'ils veulent la contraception. » En fait, elle a réussi à le convaincre que c'était sur le plan, je dirais presque humain, chrétien en ce qui la concerne, où il fallait aider les femmes donc à ne pas se mettre dans des situations aussi dramatiques.
Dans ce XXe siècle, les femmes de président ont eu aussi des implications, notamment dans des fondations. Je pense à Madame Pompidou, je pense à Bernadette Chirac, pour ne parler que d'elles deux. Ça aussi, c'est quelque chose d'important, parce qu'elles avaient, vous parliez qu'elles n'ont pas de statut, effectivement, mais elles ont quand même un bureau à l'Élysée, elles ont une certaine visibilité.
Alors, le bureau à l'Élysée, c'est pas si ancien que ça. C'est Anémone Giscard d'Estaing qui, la première, ne vivant pas à l'Élysée, restant chez elle, a souhaité avoir un bureau officiellement. Les premières dames précédentes, elles avaient le bureau dans leurs appartements privés. Et de là, elle gérait éventuellement les affaires courantes, je dirais, répondre aux courriers, etc. Donc, on commence à avoir une petite institutionnalisation de la fonction à ce moment-là. Donc, on est déjà sous la Ve République.
Alors, on a vu un président, le François Hollande, avec femme, sans femme, avec à nouveau une femme, peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'une femme est indispensable auprès d'un président ?
Alors, très curieusement, les Français pensent que oui. Ils ont encore, et ça, c'est, on le remarque à toutes les périodes, le couple présidentiel incarne, si vous voulez, des images rassurantes. Et aujourd'hui, un couple marié, ben, ça rassure. Et tous les hommes politiques sont persuadés qu'ils seront élus plus facilement s'ils ont une femme à leur côté. C'est pas forcément parce qu'elle va les aider ou les, même si c'est le cas bien souvent, mais c'est aussi parce qu'ils sont persuadés que dans les représentations des Français, et ça remonte très loin, hein, déjà pendant la Révolution, un citoyen, c'est un homme marié avec des enfants. Et donc ces images-là, elles perdurent, quelle que soit l'évolution du mariage dans nos sociétés.
Votre regard d'historienne sur ces femmes ?
Ce qui m'a beaucoup surprise, c'est de voir à quel point, s'agissant des premières dames, alors j'utilise ce terme qui est générique et en fait récent, parce que bon, ça permet de savoir de quoi on parle. Ce qui m'a vraiment étonnée, c'est de voir à quel point, par rapport à l'émancipation des femmes sur la longue durée, eh bien, le rôle des épouses de président n'a pratiquement pas changé. Ce qu'on demandait à Élise Thiers, on le demande aujourd'hui à Brigitte Macron, avec des mots différents. Hein, on ne va pas parler de bonnes œuvres, on va parler d'humanitaire, d'œuvres sociales, voilà. Mais le rôle est toujours le même. Représentation, accueil de la République à l'Élysée, gestion, en effet, de ce palais. Et en même temps, ne pas intervenir dans la politique, officiellement en tout cas.
Merci Joëlle Chevet. Donc l'Élysée au féminin, c'est aux éditions du Rocher et vous en saurez plus sur ce qui se passe peut-être dans l'alcôve de l'Élysée.
Merci.